Bonjour à toutes et à tous, Catherine Mann au micro pour vous proposer de nous mettre à l'écoute des psaumes de la Bible. Je vous rappelle que nous nous intéressons cette année aux psaumes qui ont été choisis dans le calendrier des messes dominicales. Nous parcourons successivement les trois années du cycle liturgique des dimanches en regardant comment les lectures de la messe éclairent le choix du psaume ou les quelques versets tirés de ce psaume. Nous parcourons actuellement le temps de Noël de l'année A que nous allons achever aujourd'hui en écoutant les psaumes des fêtes de l'Épiphanie et du baptême du Seigneur. Pour la fête de l'Épiphanie d'abord, le psaume choisi est le 72 selon la numérotation hébraïque, 71 dans la numérotation latine. Il s'agit d'un psaume royal, un psaume constitué des vœux formulés lors du sacre d'un nouveau roi, des vœux de grandeur politique pour le roi et des vœux de paix, de justice et de prospérité pour son peuple. Ce roi est à la fois roi et messie, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction divine. À travers ce chant monte une espérance qui, pour les chrétiens, trouvera sa réalisation en Jésus-Christ. C'est lui, le Messie attendu, qui vient régner sur le monde, mais sa royauté n'est pas celle des puissants rois de ce monde, mais celle du royaume des cieux qui n'est visible que pour les yeux de la foi. Tout le psaume 72 n'est pas chanté lors de la messe, mais seulement les versets 1, 2, 7, 8 et 10 à 13. Car le psaume est assez long, il comporte 20 versets en tout. Je vous propose d'écouter déjà ce psaume 72 chanté pour la messe par l'ensemble Hilarium dans la version du Père André Gouze.
Allons dans la joie, à la rencontre du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem.
Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un.
C'est là que montent les tribus du Seigneur. Allons dans la joie, à la rencontre du Seigneur.
C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Allons dans la joie, à la rencontre du Seigneur.
À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi.
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Allons dans la joie, à la rencontre du Seigneur.
La célébration de l'Épiphanie raconte la visite des mages venus d'Orient, nous dit l'évangile de Matthieu. Et c'est tout ce que l'on sait d'eux si l'on s'en tient à l'évangile. Mais la tradition chrétienne a rajouté ensuite quelques précisions. Ce seraient des rois mages. Ils étaient trois, dont l'un avait la peau noire, et ils se seraient appelés Gaspard, Melchior et Balthazar. Est-ce une légende sortie de l'imagination des croyants ou bien des révélations particulières? Qui sait? En tout cas, ils étaient astrologues et cherchaient celui que leur science avait annoncé. L'apparition d'une étoile avait d'ailleurs déjà été reliée à la venue du Messie dans la Bible et annoncée par le prophète Balaam. Dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17 que je vous lis, « Je le vois, je l'observe, de Jacob monte une étoile, d'Israël jaillit un sceptre. On peut imaginer la peur du roi Hérode quand il apprend que des astrologues ont vu cette étoile et qu'ils font le voyage depuis leur pays d'origine vers la Judée pour y rencontrer le nouveau roi, le vrai roi des Juifs. Hérode, qui avait fait tuer toute sa famille pour pouvoir garder son trône en toute sécurité, le voilà confronté à un nouveau rival, un bébé. Mais son plan d'action se prépare aussitôt, il n'y a qu'à tuer tous les nouveau-nés des environs et le problème sera résolu. On sait que c'est pour échapper à ce massacre que la Sainte Famille s'enfuira en Égypte, mais cela n'a pas empêché le massacre d'avoir lieu. L'Église en fait mémoire chaque 28 décembre en fêtant les Saints Innocents, premiers martyrs pour le Christ. Mais revenons au psaume 72 que je vous propose d'écouter à présent, chanté presque en entier par les moines de la Pierre qui vire. Parmi les versets qui n'ont pas été chantés dans la version du psaume 72 que nous venons d'entendre, se trouvent justement les versets particulièrement appropriés pour la fête de l'Épiphanie, puisqu'ils racontent la visite de rois étrangers venus s'incliner devant la puissance du roi Messie d'Israël. Ce sont en particulier les versets 10 et 11 que je vous lis. « Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. » Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. » Écoutons donc ces versets en latin, cette fois dans l'offertoire en chant grégorien pour la fête de l'Épiphanie. Nous allons laisser à présent le psaume 72 parce que je vous rappelle que nous l'avions déjà rencontré au cours de la messe du deuxième dimanche de l'Avent lors d'une précédente émission. Je vous propose donc d'avancer à présent vers la fête du baptême du Seigneur pour parler du psaume 29. Remarquons d'abord que le temps de Noël s'achève ainsi avec un fameux saut dans le temps, puisque Jésus, que nous venons de quitter petit enfant, est baptisé à l'âge adulte. Son baptême par Jean-Baptiste inaugure en fait sa vie publique, sa manifestation au monde comme Fils de Dieu, confirmé par l'Esprit-Saint. Le baptême de Jésus est une théophanie, c'est-à-dire un moment privilégié où Dieu se montre clairement aux hommes comme Trinité, puisqu'on entend la voix du Père qui glorifie son Fils bien-aimé sur lequel l'Esprit-Saint vient reposer. Ainsi, le temps de Noël passe de la scène intime de la nativité à l'élargissement progressif de la présentation de Jésus, Fils de Dieu, d'abord aux bergers, puis aux mages, et enfin à toute l'humanité. Pour illustrer cette ouverture qui s'étend à tous les peuples, écoutons le psaume 29 de la fête du baptême de Jésus, chanté en anglais sur une musique de George Mercer Garrett, un compositeur anglais du 19e siècle. Malheureusement, comme souvent pendant les messes, le psaume 29 n'est pas chanté en entier lors de la fête du baptême du Seigneur. On chante en fait 6 versets sur les 11 que comporte le psaume. Ainsi, nous ne remarquons pas la composition un peu litanique de ce psaume 29, dont 7 versets commencent par « la voix du Seigneur », la voix V-O-I-X. Cette répétition est bien sûr voulue et le chiffre 7 évoque la plénitude de la révélation de la puissance de Dieu. Dans le psaume tel qu'il apparaît dans la messe, nous n'avons plus que 3 fois l'expression « la voix du Seigneur ». Mais peut-être est-ce suffisant pour nous évoquer les 3 personnes de la Trinité. Écoutons donc cette version dominicale du psaume 29 dans la version du Père André Gouze.
Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix.
Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté.
La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix.
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient gloire.
Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Dieu bénit ton peuple. Donne-lui la paix.
Dans le psaume 29 en hébreu, la voix du Seigneur exprime plutôt le tonnerre au cœur de la violence d'un orage. C'est bien sûr une forme de théophanie qui est évoquée, mais sous une forme cosmique. La puissance de Dieu, comme gloire et force du ciel, descend sur les eaux, sur la terre, la forêt, puis le désert, enfin au temple, et puis revient au ciel. Le verset 10 évoque même le déluge, comme souvenir de la victoire de Dieu sur toutes les forces du mal et du chaos que les eaux symbolisent. Dans la liturgie chrétienne, forcément, le même sens persiste à travers le baptême du Christ. Car l'humble descente du Fils de Dieu dans les profondeurs de l'eau symbolise la rencontre du péché et le salut que Jésus vient apporter à l'univers entier par son obéissance au Père. Je vous propose d'écouter à présent le psaume 29, chanté en hébreu par Esther Lamandier, et c'est l'occasion de remarquer la répétition 7 fois de la formule « Kol Adonai », ce qui veut dire « la voix du Seigneur ». Et pourtant, le texte hébreu écrit le nom de Dieu en 4 consonnes « Yod, He, Vav, He », ce que malheureusement les chrétiens ont souvent prononcé « Yahvé » ou même « Jéhovah », et qui pour le peuple juif est une hérésie. En fait, quand on voit écrites les 4 consonnes du nom divin, cela se prononce toujours Adonai, qui se traduit en français par Seigneur, car il est interdit de prononcer le nom divin. Seul le grand prêtre en avait le droit, et il ne le prononçait qu'une fois par an dans le temple, le jour du grand pardon. C'est pourquoi d'ailleurs on ignore aujourd'hui la prononciation exacte du nom divin, car la tradition s'est perdue après la destruction du temple.
Adonai kalam ha'amayim el ha'kadosh.
La première lecture de la fête du baptême du Seigneur est tirée du livre d'Isaïe. C'est le début du chapitre 47 qui décrit la personne du Messie comme serviteur, celui qui a pour mission d'accomplir l'œuvre de Dieu qui est œuvre de salut. Je vous lis le début de ce texte. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. » Et je vous lis à présent le texte du baptême du Christ selon l'évangile de Matthieu, chapitre 3, les versets 16-17. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » La correspondance des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament saute aux yeux. Il faut bien dire que l'évangéliste Matthieu a voulu cette évocation du texte prophétique pour convaincre la communauté juive d'accueillir Jésus comme Messie d'Israël. Il a mis l'accent de nombreuses fois dans son évangile sur l'accomplissement des Écritures, en voulant prouver que Jésus était bien celui qui était attendu et qu'il fallait reconnaître. Et le psaume 29 commence aussi par une exhortation à reconnaître la majesté sainte de Dieu. Exhortation qui s'adresse sans doute aux puissants d'Israël en leur demandant de lui rendre gloire et de l'adorer en se prosternant devant lui. Je vous propose donc d'écouter le début de ce psaume 29, mais en français du XVIe siècle, où vous reconnaîtrez que l'on demande aux princes et seigneurs de ployer le genou avec crainte. C'est un texte protestant donc de Théodore de Bèze et la musique de Jan Sfelink. Je veux simplement, pour terminer cette émission, évoquer l'Esprit Saint, dont l'évangile du baptême du Christ nous dit qu'il descend sur Jésus comme une colombe. Cela renvoie à plusieurs passages de l'Ancien Testament. D'abord, sans doute, la Genèse, où l'Esprit Saint planait, le texte dit voletait, au-dessus des eaux de la création. Ensuite, la fin du déluge, sans doute, quand Noé envoie une colombe qui revient vers l'arche avec un rameau pour montrer que les arbres ont enfin réapparu. Et puis, ce qui est beaucoup moins évident, cela renvoie au prophète Jonas. Parce que le nom de Jonas, Jonah en hébreu, signifie « colombe ». Tous ces liens avec l'Ancien Testament nous permettent de comprendre tout le renouveau qui est exprimé au moment du baptême de Jésus. C'est véritablement une recréation du monde, une purification et une victoire sur le mal qui est promise à l'humanité. De plus, on peut ajouter aussi que dans le psaume 29, le nom de Dieu apparaît 10 fois, comme en écho aux 10 commandements, les 10 paroles de Dieu adressées à Moïse. Là aussi, il y a une évocation de la puissance créatrice de Dieu, cette fois pour la naissance d'une nation, le peuple de Dieu. Il ne nous reste donc plus qu'à vivre, nous aussi, notre propre baptême de la même manière, comme une nouvelle naissance, une nouvelle création. Et je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.